Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la JSSI 2016. Et pour discuter de ce sujet, nous recevons Jean-Philippe Gaulier.
Bonjour.
Qui est le président de l'OSIR.
C'est ça.
Nous recevons également
Christophe Labourdette.
Bonjour.
Qui est le vice-président de l'OSIR. Et donc pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Jean-François Audenard.
Salut.
Loïs Samin.
Salut.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Éric Fraissinet.
Bonjour.
Arnaud Soulier.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors, la JSSI, Jean-Philippe, qu'est-ce qui caractérise cet événement?
C'est bien.
C'est même mieux.
Voilà, c'est ça. Bah, en plus, nous, on a un Dimitri. Blague à part, private joke mise de côté. La JSSI, c'est quoi? C'est la journée de sécurité des systèmes d'information liée à l'association OSIR. OSIR, c'est Observatoire de la sécurité des systèmes d'information et des réseaux. C'est une journée qui est faite une fois par an, un séminaire, une conférence globale. Il faut revenir un petit peu à l'OSIR, même si je sais qu'on a fait un podcast sur l'association. L'OSIR, c'est une association qui se réunit tous les mois à Paris, avec chaque deuxième mardi après-midi du mois, une conférence avec deux talks et une veille. Et donc, au mois de mars, avant c'était au mois de mai, on fait une journée avec 7-8 conférences qui parlent de sécurité.
D'accord. Alors, ce CRU 2016.
Ben ça, il faut attendre les sondages pour savoir si les gens ont apprécié, mais au niveau du programme, c'était retour vers le futur, bienvenue en 1984. Alors c'est un thème qui a été élaboré par le conseil d'administration, c'est un thème qui a été longuement débattu, hein. Certains étaient contre, la majorité, et puis le président a voté. Et donc c'est un très bon thème. On nous a demandé si 1984 c'était en rapport avec la circulaire administrative. On a dit qu'on voyait pas trop le rapport. Et après on nous a dit ah non mais moi je n'ai vu que le film 1984. Est-ce que c'est en rapport avec le livre? Voilà. Ben on s'est dit oui effectivement c'est ça. Donc 1984, Orwell et la surveillance de masse.
Et puis il y en a qui n'étaient pas nés dans la salle.
Même autour de ce micro.
Oui. Ah bah, je confirme.
Ouais, autour.
Ah c'est pour ça qu'ils ont.
Bon ben je vais m'en aller. Et retour vers le futur, et ben, pour tous ceux qui ont pu être présents, vous avez vu qu'on porte le même gilet que Marty McFly, un fabuleux gilet de sauvetage rouge, qui montre les gens du conseil d'administration de l'OSIR pour qu'ils soient facilement repérables. Et moi j'ai posé le mien parce que 30 degrés en plein été, ça commence à bien faire. Donc voilà. Christophe, tu veux ajouter quelque chose?
Bah, du coup, on a eu un programme à partir de ça.
Ah oui,
à partir du thème.
En fait, cette JSSI, elle est chaque année organisée par un comité de programme qui est constitué par le conseil d'administration. Et effectivement, chaque année, il y a un programme. Et cette année, à mon avis, il était particulièrement alléchant puisqu'on a battu notre record de participation à cette JSSI avec plus de 170 inscrits. Je ne sais plus exactement combien.
174 officiellement, mais on a été obligé de refuser du monde. Donc,
C'était plein. Hein. Enfin, moi, j'ai vu les sièges.
C'est la première fois qu'on refuse du monde à la JSSI. Hein,
on a même refusé quelqu'un qui est venu ce matin de manière improviste. Un copain qui dit « Bon, bah, je fais comme d'habitude, j'ai oublié de m'inscrire. Est-ce que je peux m'inscrire maintenant ?»
Je connais Nicolas Ruff, est-ce que je peux venir?
Et donc, on a été obligé de dire bah, « Désolé, mais pour des questions de logistique, on a refusé du monde. Donc, on ne peut pas accepter d'inscription de dernière seconde. »
La fin d'une amitié.
Est-ce que vous allez faire comme au stick? Avec des créneaux.
Partir à Rennes, jamais.
Non, c'est rien du tout chaîne.
Je cherchais le rapport avec la journée de la femme, mais je n'ai pas trouvé.
Alors, c'était quoi les conférences sympas d'aujourd'hui?
On a commencé avec une conférence de Google, avec Damien Desfontaines, sur la protection des données personnelles. Et j'ai trouvé ça très intéressant, même si... en une demi-heure, forcément, quand on connaît un petit peu le sujet, on en ressort un peu frustré parce qu'on voudrait approfondir et voir vraiment comment un des géants mondiaux de l'informatique traite vraiment nos données. Il y a eu des choses très intéressantes sur... on chiffre tout ce qui est données personnelles, on ne se pose pas les questions. Et au niveau des sauvegardes qui sont faites, on ne cherche pas à effacer les sauvegardes, on efface la clé de chiffrement. Ce qui est une approche...
C'est plus simple. Ouais. Pragmatique.
Intéressante. Ouais. Intéressante. Donc, il y a eu celle-là. Il y a eu le retour de Laurent Houdot pour nos auditeurs qui sont... avant 1984.
Laurent Houdot, spécialiste du piratage sur X25.
Et Laurent a fait un retour à la Nicolas Ruff. Pourquoi la sécurité est un échec.
Non, mais très intéressant, justement, avec des retours d'expérience et des petites anecdotes moi, particulièrement truculentes sur ce qu'il a pu voir.
J'ai particulièrement apprécié les attaques de hache. Mais rien à voir avec le hache anglais, hein, les vraies machettes.
Oui. Alors, pour les auditeurs, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il présentait un cas où un data center et des bureaux étaient attaqués par des populations locales avec des machettes, enfin, en gros une espèce de révolution locale, et que les gars préféraient finalement sauver leur peau et sauver leurs enfants plutôt que de rester sur site pour effacer les données. Donc en gros, ce qu'il disait, c'est que la sécurité physique potentiellement était un échec. Ou en tout cas que face à une armée de gars munis de machettes, les gens prenaient leur jambe à leur cou et essayaient de sauver leur vie.
Ce qui me paraissait plutôt sain.
C'est plutôt, oui, normal, oui.
En fait.
C'est un plaidoyer pour le cloud, ça.
Non, c'est un plaidoyer pour trouver les procédures.
C'est un plaidoyer pour détruire le cloud.
Pour détruire tes données.
Donc ce matin, deux conférences techniques qui m'ont particulièrement intéressé. Il y avait aussi une conférence juridique. Qui était fait par François Coupez, je ne sais pas comment on prononce, et qui était également fort intéressante, très vivante, et qui avait la particularité,
pour un avocat,
d'avoir de très beaux slides. Donc, on est habitué aux slides moches par les avocats.
Beau et compréhensible.
Quand c'est pas moche,
voir la liste des intervenants des années précédentes.
Quand c'est pas moche, c'est fait en beamer. voir un des épisodes passés récemment. Et là, les slides étaient beaux.
Conférence très appréciée parce que j'ai entendu beaucoup de gens parler des détails qu'ils donnaient et que c'était ce qui rendait la présentation particulièrement intéressante.
Alors, il a parlé de quoi ?
De toutes les jurisprudences, de plein de cas réels qu'il a vus justement sur les données personnelles.
Si tu te souviens, l'année dernière, l'avocat qui était là nous avait expliqué comment faire virer ton RSSI en 10 leçons. Et là, aujourd'hui, si je résume, c'est comment partir avec un chèque.
Un gros chèque.
Plus intéressant. Donc les gens étaient beaucoup plus intéressés.
Il faut se dépêcher parce que le montant des allocations en prud'homme va être plafonné bientôt.
Alors en fait, ce matin, il y a aussi eu une intervention de Renaud Fay, non ?
Oui. Ouais. Et Jérémy Le Bourdet. Sur un retour d'expérience sur 10 années d'audit.
Alors si, il y avait quelque chose de très marrant. Je voulais pas descendre la liste parce que je mettais celle que moi j'avais apprécié le plus. Les 10 ans d'expérience, en fait, comme je suis plus vieux qu'eux, ça a rappelé quelques souvenirs, mais il y a des choses qui forcément n'ont pas cité. Et on était deux dans la salle à savoir ce qu'était MS-03-026. Pour nos auditeurs, vous irez chercher sur la page de Microsoft. Mais en fait, c'est la référence à MS Blaster qui rebootait votre PC au bout de 59 secondes, à partir du moment où vous étiez infesté par cette saleté. Et après qu'on a fait un petit sondage, il y avait une vingtaine de personnes peut-être à main levée qui connaissaient Blaster. Donc ça veut dire que soit on a une population jeune, soit on a une population qui découvre le métier ou qui vient de rentrer
qui
dans la sécurité.
Qui oublie très vite parce qu'elle est trop vieille.
C'est possible. Voilà.
Ou qui est souligné.
Donc ça c'était pour ce matin. La pause déjeuner, comme d'habitude, à l'Ossia a été formidable.
Très bon buffet.
Truculent, ouais.
Bon,
meilleur que la botte conf.
Challenge accepté.
On a oublié quelque chose sur le matin, c'est qu'en fait, en commençant par Google et ensuite Laurent, c'était tellement attractif que la plupart des gens, à part Eric Frayssinet, sont venus dès l'aurore pour assister aux conférences.
Alors pour réveiller tout le monde après le repas,
je suis sûr que c'est la conférence qui t'a intéressé le plus.
J'ai pas eu de surprise personnellement parce que je connaissais déjà Jérémy Zimmermann, mais il a fait un panorama de la vision que lui diffuse de la sécurité et l'argument principal qu'il a défendu cet après-midi, c'était la nécessité de décentraliser
la gestion de vos mails, de votre stockage d'informations.
D'avoir de la confiance, de trouver des moyens d'avoir de la confiance.
Ouais, et un de ces moyens qu'il a mis en avant, c'était celui-là.
Oui.
Effectivement. Mais... Et les inquiétudes qu'il a réitérées, c'est non seulement par rapport au logiciel, mais il a bien insisté sur la sensibilité par rapport à la sécurité du matériel, qui pose pas mal de questions, effectivement. Après, moi, je ne suis pas convaincu complètement des solutions. Il dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de domaines où, justement, on ne va pas arriver à trouver des solutions comme ça, en demandant à Mme Michu d'avoir ou Mme Dupont ou M. Dupont d'avoir un serveur chez lui qui l'administre. Je ne crois pas que ce soit si magique que ça à faire.
Non, c'est probablement pas magique, mais il y a sûrement un intervalle entre une solution étatique et une solution pire.
Ouais, enfin, on parlait des solutions commerciales. Ouais. Mais là, pour le coup, je ne suis pas convaincu qu'il faille tout mettre entre les mains de monsieur et madame tout le monde.
Ça ferait de
bons... Son serveur de mail, par exemple, c'est quand même assez risqué.
Ça ferait de bons exposés pour Botnet, non ? Botconf ?
Oui, alors c'était un peu mon inquiétude, c'était de voir émerger des ressources
de nouveaux botnets.
Oui, des nouvelles ressources chez les particuliers sans aucune maîtrise, ça présente un risque supplémentaire. On a évoqué ensuite un petit peu plus tard l'internet des objets.
C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que
c'est une dimension d'augmentation de la surface d'attaque qui est inquiétante quand même.
Ok, mais quand même, il y a un effet secondaire qui est quand même intéressant si on multiplie les sources. C'est peut-être, on peut espérer que les gens vont gagner un peu en compétences.
Oui, mais pas tout le monde.
Ah, c'est, monsieur et madame Michu. Pas monsieur et madame Michu, mais si y a, non, c'est pas vrai. Si tu éloignes et tu centralises tout, de toute façon, tu n'as plus aucune compétence.
Non, mais on est bien d'accord. Mais... je ne crois pas qu'on soit mûr encore pour offrir ce genre de solution.
Ça, c'est très clair.
Et on le voit bien avec les appareils qui fonctionnent tout seuls en les branchant. Ils ont plein de défauts de sécurité. Donc, ce n'est pas des choses qui marchent aujourd'hui.
Moi, j'ai vu la conf plus comme une série de questions que comme des réponses.
Oui, mais est-ce que c'est les bonnes réponses qui donnent les pistes ?
Ce sont des réponses.
Si, il donnait des pistes.
En tout cas, il partageait son point de vue, qui est intéressant de partager. Ouais, puis, on peut avoir d'autres opinions et ou solutions. Hein. Un certain nombre de grandes sociétés en ont. Il y a des acteurs, entre autres la communauté du libre, qui a aussi des propositions. Bon, je pense qu'un melting pot de tout ça permettra de faire émerger des nouveaux modèles. Hein. On a parlé de blockchain et des objets connectés cet après-midi. Mmh. Les objets connectés, il y a la vraie question qui a été posée par le juriste le matin, qui était, le bring your own device, ça marchait un petit peu, mais par contre, apporter vos objets connectés avec vous, genre vos montres, vos paires de lunettes, vous n'allez pas en porter deux. Et ça, c'était une vraie question. Lui, en plus, il portait des lunettes. Donc, clairement, il ne va pas porter deux paires de lunettes, une pour chez lui, une pour le boulot.
Tout à fait.
Pareil pour la montre, il ne va pas poser sa montre.
Puis, pacemaker.
Pacemaker.
Ouais. Bonjour, je pose mon pacemaker, celui du boulot.
C'est plus simple de transférer ta conscience dans un autre organisme vivant quand tu rentres dans
ça y est, transhumanisme, c'est son retour.
Docteur Laurent, bonjour.
Voilà. Le transhumanisme.
Faudrait qu'on fasse un podcast là-dessus. On l'a fait ou pas sur le trans
Non, sur l'a fait. L'a fait qui
ça, ce sera un vrai sujet parce qu'il y a besoin de débusquer quelques trolls.
C'est quoi. Loin de la sécurité informatique.
C'est un sujet sensible. Hein.
Mais non, parce que tu peux hacker les cerveaux, selon certains.
Alors, on a eu aussi un retour sur la sécurité de la S400. Alors, c'était très intéressant parce que...
Et le pentest de la S400.
Voilà, le pentest de la S400. Mais c'était très intéressant parce que la personne qui a eu le courage de venir présenter, c'était sa première conférence en public. C'était son premier talk. Il s'en est très bien sorti.
Et il s'attendait à 20-25 personnes.
Il s'attendait à 20-25 personnes.
Alors, et de la bière aussi.
La petite histoire, c'est que, Alain Schneider, que nous saluons, et son associé, lui a dit écoute, vas-y, j'ai une mission à l'autre bout de la France, tu vas voir, de toute façon, ils sont 20-25, c'est bonne ambiance. Et donc, il s'est retrouvé face à 170 personnes. Il s'en est très bien sorti. Et l'exercice était intéressant. Et dans la salle, il y avait au moins 10 personnes, je pense, qui étaient entre autres venues pour ça, puisqu'il y avait 10 personnes qui avaient de la S400 encore en production. Et donc, c'était assez notable.
Un petit bémol sur le contraste des slides, quand même. Hein. Comme il dit, la S400, c'est interface Matrix en vert sur fond noir. Ça passe pas très bien à l'écran. Ouais.
Et on
d'un
a...
autre côté, c'était un jeune, ce qui était quand même surprenant pour un exposé sur la S400.
Non, parce que regarde, on a eu une présentation à l'OCIR sur l'audit de ZOS, IBM ZOS, par un jeune, ça s'est très bien passé, et lui, il fait pas mal d'audits.
Ça se passait mal, mais ça veut
Moi, j'ai eu un AS400 en analyse, alors, c'était il y a longtemps. Mais,
j'en ai vieux combattant.
Ouais, ouais, mais c'était déjà vieux pour moi à l'époque. On était à la fin des années 90, et pour trouver un AS400, pour refaire l'analyse criminalistique du serveur, déjà, il a fallu...
Ouais, t'avais pas IB à l'époque.
Il y avait pas. Si, il y avait les débuts d'eBay.
Ouais, mais tu n'avais pas d'AS400 sur eBay.
Mais j'avais pas d'AS400 sous la main, il a fallu qu'on bricole un truc. Et c'est tombé sur le petit jeune parce que justement, à l'époque, j'étais le petit jeune, parce que justement, personne connaissait ce truc-là.
Ah, t'intéressais à l'anthologie, quoi.
Ça avait beau être ancien. Les plus anciens n'avaient même pas connu ça ou même pas travaillé là-dessus sous l'angle de l'analyse. Et je suppose que c'est la même chose sur le pentest. C'est des choses qu'on demande aux jeunes de. Pour lequel on va demander aux jeunes de faire des recherches et c'est ce qui s'est passé pour
lui. Un peu comme le COBOL et Hervé Schauer. Hervé, si tu nous écoutes. Alors, il y a une conférence qu'on n'a pas citée, c'est celle de Ronan Lischwitz sur IoT et Sigfox. Pour nos auditeurs qui ne sauraient pas, tout comme moi, avant cet après-midi, ce qui est Sigfox, hein, c'est un protocole radio.
C'est une entreprise.
Oui,
oui, enfin, on s'en fout que ce soit une entreprise
française.
française
qui déploie à travers la planète.
Et le protocole, c'est
Sigfox.
Merci Dimitri pour cette intervention très utile. Donc, un protocole radio qui permet aux objets connectés, entre autres, de communiquer soit entre eux, soit vers d'autres plateformes. Jean-François, il paraît que tu as pris beaucoup de notes.
Ah! Bon, le sujet, ouais, sécurité d'Internet des objets m'intéresse assez particulièrement. Moi, ce que j'ai retenu de la conférence de Renaud, c'est que Sigfox, c'est quand même les fondamentaux sont là. Ils sont adaptés en termes de sécurité pour des usages non critiques, de la remontée d'alerte, même s'il y a certaines faiblesses, notamment sur les aspects confidentialité. Et le rejeu de certains paquets qui sont possibles. Les aspects aussi sécurité physique, on voit que l'extraction des clés directement depuis le périphérique, ça pose problème. Et ça rejoint aussi un peu la conf de ce matin sur les côtés data center. Avec Laurent, on voit que le côté sécurité physique revient en force et parfois un peu sous-classé. Au bénéfice du côté cyber, un peu dans tous les sens. Et ça, je pense que ça va être une grande tendance. Et on le voit aussi avec le côté de physique, le côté radio aussi. C'est des choses qu'on a un peu oubliées et qui reviennent avec le côté électronique, où là, peut-être, dans notre domaine, on va avoir des besoins de compétences. Et de renforcer un peu la formation des personnes dans les années à venir, chose qu'on a un peu oubliée. Peut-être que les écoles d'ingénieurs... fondamentales entre guillemets qui vont se mettre avec une composante sécurité ont peut-être des choses à jouer.
Tu veux dire qu'il faut redonner des cours de traitement de signaux aléatoires?
Peut-être.
J'en ai souffert.
Non, mais ça existe encore.
Alors, la comparaison intéressante qui a été faite, c'est que la sécurité de Sigfox aujourd'hui est à peu près comparable à celle de TCP/IP au début des années 80. En tout cas, c'est la comparaison qui a été faite rapide cet après-midi pour que tout le monde puisse comprendre.
C'est un peu hasardeux comme comparaison, ouais, quand même, parce que ça va être très difficile de faire passer un protocole sécurisé au-dessus de Sigfox, ouais. Contrairement à ce qu'on a pu facilement faire sur TCP.
La question, c'est est-ce qu'on a fait une étude des besoins de sécurité avant de déployer
une analyse? Oui.
Non, absolument pas, c'est pas prévu pour.
Bah oui, mais il y a des besoins de sécurité, oui. Ne serait-ce que d'authentification. Qui sont pas complètement réglés avec les solutions.
Alors actuellement, la mise en œuvre, sur l'authentification, ici c'était de l'extraction des clés. Renaud l'a bien dit, c'est que s'il y a un secure element qui permet de protéger de l'extraction des clés, l'authentification.
C'est pas d'authentification, c'est de l'identification.
Bah oui,
c'est une adresse MAC. Hein,
c'est pas fait pour la sécurité. Il y a un HMAC.
Il y a un HMAC avec une clé secrète.
Ouais. Maintenant, si la clé peut être extraite.
Le coût du TPM, il est 10 fois supérieur à celui de l'objet. Donc, je veux dire, si tu commences à mettre un TPM dans ton thermomètre connecté, tu vas pas être.
Non, mais le problème
par contre, je peux te dire où tu l'auras.
Le problème, c'est qu'à terme, ce protocole qui est utilisé juste pour la remontée d'alerte, je suis sûr que dans quelques années, il y a plein d'objets qui vont l'utiliser pour remonter les informations confidentielles, qui vont faire faire des chiffrements tout pourris maison par-dessus et ça va être une catastrophe.
Sans se poser de questions, parce qu'ils vont se dire Sigfox, ça existe depuis des années, tout le monde l'utilise, moi aussi, et les personnes n'iront pas.
On peut peut-être faire une préconisation.
Le vrai parallèle avec les CPIP, c'est que c'est aussi peu sécurisé qu'à l'origine.
Mais c'était ça. Hein,
mais que c'est quand même.
Et moi, sur les remontées d'alarme...
Personne n'a envoyé d'informations via TCP. Il y a quand même eu un protocole applicatif, là, il y en a.
Sur les remontées d'alarme, moi, ça pose un problème quand même, parce que sur une remontée d'alarme, tu dois faire une contre-vérification, et si en plus, tu n'es même pas sûr de où vient ta remontée d'alarme, il y a quand même un problème.
Bah, donc, il faut attendre 10 minutes. Il y a quand même des grosses problématiques de rejeu qu'il évoquait, la capacité de rejouer un paquet et sa signature valide assez facilement. C'est quand même super problématique parce que finalement j'extrais la clé de mon objet et finalement j'envoie un signal d'alarme en faisant semblant, bon bah s'il n'y a que moi qui ai ma clé et qu'elle est effectivement différente sur chaque objet connecté, c'est pas si grave d'extraire sa clé privée.
Ce qui est embêtant, c'est surtout si tu envoies un message qui dit tout le temps tout va bien.
Alors que tout va mal.
Si c'est après, les rejeux étaient possibles tous les 4096 messages. Donc,
si tu n'as pas accès physique.
Ouais,
si tu as accès physique.
Donc en fait, tout dépend de l'utilisation qui est faite de ce protocole. Et enfin, Vlad, je te rejoins, c'est que pour certaines applications standards, classiques, pas de problème. Mais pour des choses critiques, et effectivement, la remontée d'alarme d'un détecteur de fumée, ça peut effectivement poser problème. Et j'imagine la tête des pompiers qui vont se revoir, qui vont recevoir des batteries d'alerte à droite, à gauche, ça peut foutre un bronx assez colossal.
Il y a actuellement quand même 1 million de domiciles en Espagne qui utilisent ça pour des systèmes d'alarme, c'est ce qui était évoqué.
Est-ce qu'il y aura des abus? C'est quand même les questions qu'il faut qu'on se pose.
Je vois bien ça sur des pipelines dans le désert où il n'y a personne sur des kilomètres. Ça laisse 10 minutes à un attaquant pour récupérer les clés et rejouer après les trams, par exemple en pétant le pipeline, en le coupant et en redonnant pourtant l'information que tout va bien.
Surtout que concrètement, Sigfox, c'était de plus en plus utilisé sur le naval en fait, parce que c'est utilisé des basses fréquences, donc ça va beaucoup plus loin en fait. Et donc c'est de plus en plus utilisé sur tout ce qui est système naval. Et donc là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec?
Après, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez. Et Renaud le disait bien en entrée, c'est qu'on est face à un protocole propriétaire, peu de spécifications, rien sur les aspects sécurité. On est un peu dans le mode boîte noire. Et les travaux qui ont été faits par Renaud sont intéressants parce que ça permet de parler des choses un peu vraies. Et je pense que c'est aussi un peu la même question qu'il faut qu'on se pose par rapport à d'autres protocoles comme LoRaWAN, le compétiteur direct d'un Sigfox. En quoi est-il mieux sécurisé? Il faut que les choses soient ouvertes et pas qu'on soit dans un mode de boîte noire et que Sigfox ne souhaite même pas évoquer le sujet. C'est quand même assez surprenant.
Sigfox est forcément meilleur, c'est français. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Et ce qui est intéressant justement aussi, c'est la communication de Sigfox justement sur la sécurité. Il disait justement à Renaud que Sigfox refusait de communiquer officiellement sur la sécurité, mais il communiquait one-to-one avec ses clients directement. Ouais.
Voilà. Donc ça, c'était
le dernier point sur Sigfox. Il n'y a aucune garantie sur le fait que les clés soient différentes.
Ah oui.
Parce que tu peux très bien avoir un fabricant qui met la même clé dans tous ses devices. Parce qu'il y a l'identifiant unique du device.
Ça, c'est jamais vu.
si c'est pas imposé par le protocole, si la clé n'est pas utilisée comme identifiant d'une manière ou d'une autre par la dérivation de clé ou autre, tu peux te garantir qu'il y a des fabricants
C'est le cas sur les téléphones mobiles en physique, donc c'est pas un problème.
C'est pas lié à Sigfox, c'est lié aux fabricants de l'objet connecté.
C'est lié à la spécification qui fait en sorte que les fabricants peuvent faire n'importe quoi.
S'il
faut une clé privée, ils sont obligés de l'avoir quelque part et qu'elle soit bien stockée ou pas, c'est pas de la faute du protocole.
Dimitri, mais je te dis, si t'as 1 million de systèmes d'alarme qui utilisent la même clé, c'est pas pareil que d'avoir 1 million d'alarmes qui utilisent des clés différentes. Parce que si t'as 1 million de systèmes qui sont flashés avec la même clé, du coup t'as plus qu'à spoofer l'adresse MAC qui est publique de n'importe qui et tu déclenches les alarmes où tu veux.
Est-ce qu'on peut extraire une fois?
Oui, c'est ça, ouais. C'est un rapport.
Non, mais il y a un vrai besoin de sécurité sur ces protocoles. Il se trouve qu'on est en avance en France sur le déploiement de tels réseaux, globalement. Donc c'est normal qu'on soit les premiers à expérimenter les difficultés. Et justement, ça va assez vite. Il y a des besoins des clients de Renault qui ont exprimé le besoin d'évaluer. Et ben ça va s'améliorer, je suis convaincu.
Surtout que Renault a proposé une solution à la fin pour sécuriser qui était tout simplement de dériver une clé à partir de la clé privée, éventuellement du numéro de séquence de la trame, et d'utiliser de dériver une clé XOR et de faire un XOR avec après.
Ça n'empêche pas le rejeu.
Je propose qu'on fasse deux fois XOR, ça sera plus sécurisé. Sinon, il y a ROT 13 ou ROT 26 en fonction de ce que tu as besoin.
On conclut.
La dernière conférence, blockchain.
Excellente vulgarisation de blockchain.
J'ai adoré ces slides.
C'était du Prezi.
Oui. Non, non, mais le style et les dessins pour représenter du blockchain et de dire que ça revenait à avoir un livre de comptabilité et que sur la page suivante, en fait, ça reprenait un résumé de la comptabilité de la page précédente. Je trouvais que l'image était
ça,
très
c'est
juste.
La chaîne de blocs,
et le fait de faire des espèces de petits dessins en forme de puzzle pour représenter les blockchains, c'était vraiment très très bien trouvé.
Par contre, la dernière question et remarque de Vladimir dans la journée, c'était de façon.
Dimitri, monsieur.
C'était de toute façon, les Chinois sont plus nombreux que nous, donc blockchain
c'est
est mort.
Ce que j'ai dit, c'est que l'un des développeurs principaux de Bitcoin,
il est russe, hein.
A abandonné le projet en faisant un espèce de blog post au vitriol avec deux principaux problèmes. Le premier, c'était que la confiance est due au réseau, et si le réseau est géré par une petite population, malheureusement eux peuvent prendre la main sur le réseau, ce qui est le cas quasiment aujourd'hui. Les plus gros mineurs de Bitcoin sont chinois et sont très peu nombreux, je crois qu'ils sont deux ou trois. Donc ça pose des questions vis-à-vis de la confiance, parce que si eux commencent à tricher et à signer leurs propres transactions, ils ont la main sur le réseau, en gros t'es obligé de leur faire confiance. Et le deuxième problème, c'est que je crois que ce qu'il expliquait, c'est qu'en Chine, la bande passante étant limitée, les Chinois refusent d'augmenter la taille des blockchains, c'est-à-dire de modifier le code source de l'application pour modifier la taille des blockchains, et donc ce qui fait qu'on va arriver à une limite dure de la taille des blocs qui devrait arriver dans quelques mois.
Qu'ils ont atteint là récemment.
Ça a déjà été atteint.
Ouais.
D'accord.
Ils ont un problème aujourd'hui. La durée de validation des transactions s'est approchée de l'heure. Et alors c'est pas pour l'utilisateur, une fois qu'il a cliqué, son truc est parti. L'ensemble de la chaîne de confiance qui prend plusieurs dizaines de minutes et aujourd'hui à plus de 50 minutes. Pour certaines d'entre elles.
Mais ça, c'est pas grave. Dans les banques, aujourd'hui, c'est 24 heures pour valider un transfert. On a encore 23 heures devant nous.
Mais non, mais c'est pas tout à fait vrai. Quand tu veux acheter ou quand tu veux vendre un produit en commerce électronique, tu veux le mettre à disposition tout de suite. Quand tu vends un bouquin pour le mettre sur un téléphone mobile ou une tablette de lecture, il faut qu'il soit tout de suite disponible dans les secondes qui suivent. Donc, est-ce que tu laisses la transaction filer ou...
Tu mets des DRM qui bloquent la lecture comme tout le monde. Hein.
Ouais, non, mais voilà, il y a plein d'usages qui ont besoin d'une validation rapide, et c'est ce que permet aujourd'hui la carte bancaire et les réseaux de transactions bancaires classiques. Tu as la validation tout de suite de ta transaction.
Il y a quand même un ensemble de places financières qui sont passées sur une technologie de blockchain, mais qui gèrent en interne, qui ne sont pas déléguées.
Qui travaillent dessus. Chinois.
Ouais. Non, il y a déjà des implémentations qui existent.
Oui, mais pas pour des transactions de ce type-là.
Pour des transactions entre places de marché,
voilà.
Et interbancaires. Mais avec
exactement
des délais,
la même chose.
En termes de réactivité,
ouais. Etc. Oui, il y a un vrai travail sur la techno-blockchain. Donc là, Dimitri parlait de...
Putain, mais c'est pas possible.
Parler du Bitcoin, mais c'est vrai que la techno blockchain, elle apporte des choses intéressantes. La question, c'est est-ce qu'on va systématiquement refaire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le cadre du Bitcoin, ou est-ce que
tout cas sur Sigfox,
parce qu'au début ça marche très bien, toujours. Hein.
Bon, quoi qu'il en soit, nous ferons un épisode sur le blockchain. Donc, je vous invite à être à l'écoute de nos limites sécu, puisque dans quelques semaines, donc, il est prévu d'enregistrer et de fournir donc un épisode sur le blockchain.
Oh. Super.
Donc, Vladimir, c'est le moment de la minute fail.
Dimitri.
Alors, en attendant, il me semble, Nico, que tu as une seconde fail.
Oui, alors, le Wi-Fi est un peu lent, mais ça, bon. C'est comme d'habitude dans toutes les salles de conférence. Par contre...
Tu n'avais pas mis ton VPN, en fait, pour ça.
L'absence... à chaque pause café, quand même, le jerrycan a été vide au bout de 5 minutes. Donc là,
des doses de café. Hein.
Des doses de café, voilà. Ça,
et à la BotConf, c'était comment, niveau café?
Très bien.
Bon, par contre, il faut toujours aller à la BotConf.
Corrie aussi.
La BotConf était hébergée dans des locaux où on ne badine pas avec le café. Ni avec le Wi-Fi.
Alors, Vladimir, avant de commencer, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce qu'est la minute fail?
Eh bien, le principe du fail est de présenter un incident passé de sécurité en prenant du recul avec humour. Le principe n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Donc, une nouvelle fois, cette histoire prend place dans un data center d'une entreprise. Donc, dans la salle principale, il y a plusieurs capteurs de fumée, ce qui est plutôt classique. L'un d'entre eux est en panne depuis un certain temps et émet continuellement une alerte sur un panneau de contrôle. Bon, c'est pas grave, parce qu'en fait, pour qu'il y ait vraiment une alerte incendie, il faut qu'il y ait deux alertes de deux détecteurs de fumée. Donc les gens ont l'habitude de voir une alerte clignoter. Donc jusqu'ici tout va bien, mais je pense que vous voyez déjà le problème venir. Du fait d'une prise mal insérée, un espèce de rail électrique commence à charbonner, c'est-à-dire qu'il commence à chauffer et à légèrement se consumer, ce qui fait qu'il devient un peu marron au niveau de la gaine de plastique, ce qui finit par dégager une légère fumée. Un capteur de fumée remonte une alerte et l'alarme incendie est déclenchée. Donc tout de suite arrêt de la climatisation, injection du gaz FM200 donc, qui empêche toute personne de rentrer dans la salle parce que c'est toxique, enfin ça tue. En moins de 10 minutes, la température monte à plus de 50 degrés, donc la plupart des équipements commencent à s'éteindre tout seul du feu de sonde thermique à l'intérieur, voire à cramer. Et quand les pompiers arrivent, la salle a dépassé les 60 degrés, les trois quarts des équipements sont arrêtés, et en fait, tout ça pour un incendie qui n'a pas eu lieu, juste pour une prise qui a juste charbonné.
Fail.
Gros fail.
Gros fail.
Alors qu'est-ce que ça met en lumière, ça ?
Que quand il y a un problème, il faut s'en occuper tout de suite.
Oui, exactement. D'ailleurs, il y a eu des photos intéressantes diffusées par Octave Clabat de VH sur un petit incendie sur un de leurs data centers en Amérique du Nord. Vous regarderez sur son compte Twitter des photos assez impressionnantes. C'est intéressant de voir comment ils ont réagi à l'incident et communiquer sur la gestion de l'incident sur place.
Voilà. Ils ont lâché un canadair sur le data center. Bon.
Non, ils ont traité. Il y a eu un incendie qui a détruit un câble, notamment d'arrivée électrique, je crois. Et voilà, ils ont traité l'incident et communiqué avec des photos. Transparents, ouais,
Sont très transparents.
Ils communiquent toujours, même quand ils veulent des attaques ou des failles. Ils pensent toujours. C'est ça qui est.
Il y a eu un bel incendie de ferme Bitcoin aussi il y a quelques mois où les clusters de GPU avaient pris feu et tout le quartier.
En Chine ?
Ah, je ne sais pas où c'était.
C'était forcément en Chine. Bon, bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous disons à la semaine prochaine, hein, puisque maintenant c'est un rendez-vous hyper régulier. Ça fait maintenant plus d'un an que toutes les semaines nous réalisons un épisode. Donc, nous vous disons à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.